France Inter. Secret d'info. Mathieu Aron.
Don't touch the TV, but also don't touch your telephone and call your broker.
La chute a commencé à 14h42 44 secondes. Tout d'un coup, certaines actions plongeaient à zéro. D'autres grimpaient à $1000.
Procter & Gamble a déjà perdu 25%.
Ne faites pas attention à ça. C'est impossible que ça refaite la réalité.
J'en vois beaucoup qui paniquent. Avec la chute, il y en a même qui veulent acheter de l'or pour assurer leurs arrières.
À un certain moment, le plus grand marché de Chicago a décidé de stopper toutes les transactions.
D'un seul coup, tout s'est effacé. Le marché a disparu.
6 mai 2010, un crack, une chute de Wall Street en 45 minutes, presque du jamais vu. Mais le plus incroyable dans cette affaire, c'est la raison de ce trou d'air boursier. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Vous avez enquêté dans le monde des traders. Il faut savoir que de mini-cracks se sont reproduits régulièrement depuis 2010, avec à chaque fois les mêmes responsables pointés du doigt.
Oui Mathieu, et pour bien comprendre, il faut savoir qu'en l'espace d'à peine 10 ans, une chose a radicalement changé sur les marchés boursiers. C'est la vitesse. Les opérations, les ventes, les achats d'actions se traitent 1 million de fois plus vite qu'en 2007. C'est une véritable révolution, explique le journaliste suisse François Pillet, auteur d'un livre de référence sur le sujet intitulé « Crash Machine ». Et cette révolution, elle porte un nom, le trading haute fréquence.
Le trading à haute fréquence consiste à acheter et à vendre des actions très 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 vite. À la vitesse de la milliseconde, de quelques dizaines de millisecondes, c'est-à-dire plus rapidement qu'un clin d'œil, aussi rapidement qu'un battement d'aile de mouche. Je peux dire, je souhaite acheter une action Lafarge, et 10 millisecondes plus tard, un battement d'aile de mouche plus tard, dire, non, finalement, j'ai changé d'avis, je ne l'achète pas, ou je l'achète à un autre prix, et recommencer ainsi pendant des millisecondes, des secondes, des minutes, des journées et des jours.
Très impressionnant en effet, hein, Delphine Simon.
Oui, et tout aussi impressionnant, c'est l'autre révolution qui s'est produite par ricochet. Plus ça va vite, plus le volume, le nombre d'ordres a explosé. Les marchés boursiers ont littéralement changé d'espace-temps. Selon Laurent Combourieux, en charge des enquêtes pour l'AMF, l'autorité des marchés financiers.
La microseconde, qu'on peut appeler la nouvelle seconde, puisque c'est la nouvelle unité de temps du fonctionnement des marchés, c'est 1 million de fois plus petit. Alors pour vous donner un exemple, si vous prenez une journée et que vous l'agrandissez 1 million de fois, ça fait 4000 ans de transactions boursières. Et donc en 4000 ans de transactions boursières, il se passe beaucoup de choses. Et bien ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une seconde, il se passe énormément de choses.
Il s'en passe des choses, ça on l'a compris. En revanche, excusez-moi Delphine, ma question est peut-être un peu simpliste, mais ça sert à quoi tout ça ?
Eh bien, comme on est à la bourse, ça sert tout simplement à gagner toujours et encore plus d'argent. Comment ? Eh bien, voici la finalité du trading à haute fréquence que nous détaille le journaliste François Pillet.
C'est une façon de multiplier des toutes petites transactions avec des toutes petites différences de prix. Et mise bout à bout, toutes ces petites différences créent un revenu qui est attractif pour les gens qui font cette activité, des traders à haute fréquence. C'est de prendre dans le marché une action et de la revendre 250 millisecondes plus tard pour une infime fraction de profit.
Une infime fraction, mais multipliée donc des millions de fois, ça peut rapporter combien, Delphine Simon ?
Les sociétés spécialisées dans ce type de trading peuvent engranger des revenus de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Et dans cette course à la vitesse, un peu comme aux Jeux Olympiques, on bat des records, observe derrière son ordinateur Laurent Combourieux à l'AMF.
Le plus rapide qu'on ait vu, c'est un trader haute fréquence qui passe un ordre et qui va modifier cet ordre 5 microsecondes après. C'est quand même énorme comme rapidité. C'est beaucoup plus rapide que le temps de propagation de l'information dans les ordinateurs. Donc, c'est ça qui est une vraie révolution dans le trading haute fréquence, c'est qu'on est passé à une échelle de temps qui est vraiment très courte.
Mais alors, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est comment un trader peut-il passer des ordres aussi vite?
C'est simple, c'est totalement impossible. L'être humain ne calcule pas à cette vitesse.
Et pourtant, cet enquêteur de l'AMF, il nous parlait bien d'un trader.
Oui, mais ce qu'on appelle les traders aujourd'hui, ce ne sont plus des hommes, ce sont des robots, plus exactement des algorithmes. Aujourd'hui, 90% des transactions sont pilotées par ces algorithmes. Les traders aux gilets colorés qui négociaient les ordres de bourse à la criée ont été remplacés par des programmes informatiques.
Ces algorithmes, c'est donc le nerf de la guerre.
Oui, c'est le trésor ultra secret de ces sociétés de trading haute fréquence. Elles consacrent beaucoup d'argent et de matière grise à les mettre au point, quitte à recruter à grands frais des ingénieurs sortis des grandes écoles comme Polytechnique. On les appelle des quants, des analystes quantitatifs. Leur mission, programmer des algorithmes en principe imbattable.
Et le problème, c'est que ces robots, ces algorithmes sont devenus si puissants qu'on a même du mal à les maîtriser.
Oui, c'est ce que constate Marc Longlet. Il a travaillé en salle des marchés comme contrôleur déontologue pour une filiale de Crédit Agricole. Face aux algorithmes, l'esprit humain, nous explique-t-il, a toujours un train de retard.
Là où il y a un problème avec l'algorithme à haute fréquence, c'est qu'il intervient tellement vite que son mouvement n'apparaît même pas à l'œil parce que l'écran n'arrive même pas à retranscrire le mouvement. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre les outils de perception qu'on a sur l'écran, notre capacité en tant qu'être humain à voir le marché, et ce qui se passe effectivement dans les tuyaux. Matériellement, physiquement, votre œil n'est pas assez puissant pour voir. Et ces mouvements, je suis même pas sûr que les machines soient capables de les afficher. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai vu un trader arracher les câbles de sa machine parce qu'il voulait arrêter son algorithme. Geste désespéré, illusoire, l'algorithme était depuis longtemps parti dans les tuyaux. Il est toujours déjà trop tard face à un algorithme.
S'il faut carrément débrancher la machine pour arrêter les robots, Delphine Simon, comment on peut, par exemple, arriver à savoir quelles transactions ont passé ces algorithmes?
En théorie, ça reste possible, car il faut savoir que les ordinateurs gardent en mémoire chaque transaction. Il y a donc des traces de tout, sauf que la masse de données, elle explose. Du coup, les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers ne savent plus où donner de la tête. En quelques années, notre travail a été bouleversé, nous confie l'un d'entre eux, Laurent Combourieux.
Il y a 10 ans, on avait analysé par jour 70 ordres par valeur sur un marché, qui était Euronext. Aujourd'hui, un trader haute fréquence passe 1 million d'ordres par jour, par valeur, sur 5 marchés différents. Donc c'est juste un peu plus compliqué.
Un peu plus compliqué, c'est peu de le dire.
Oui, écoutez, cet autre exemple, des chercheurs de l'école d'économie de Toulouse ont réussi à mettre la main sur les ordres de bourse et les transactions de 25 titres pendant 10 mois sur Euronext. Comme l'explique l'une de ses chercheurs, Fanny De Clercq, elle a bataillé 3 ans pour obtenir cette matière première, sauf que c'est presque intraitable.
En fait, on a réussi à accéder à, comme on a des relations à Toulouse historiquement depuis très longtemps avec les banques, mais aussi avec les régulateurs, on a réussi à obtenir ces données. Et sur ces données, elles sont vraiment totalement brutes. Et déjà, on a les ordres et les transactions. Le problème, c'est que la base de données, elle fait 50 teraoctets, ce qui est juste énormissime. Donc à chaque fois qu'on veut faire un traitement, ça met 3 semaines. Donc pour obtenir un résultat, on met 3 semaines. Donc c'est pour ça que je pense qu'on sait encore au final très peu de choses sur ce qu'est le high frequency trading.
Sachez que 50 teraoctets, c'est l'équivalent de 10 000 DVD. Par comparaison, il y a 10 ans, les mêmes informations tenaient sur un seul CD.
Une sacrée différence en effet. Alors écoutez ces enquêteurs ou ces chercheurs, on a le sentiment qu'on ne peut plus rien contrôler du tout.
Si on est totalement honnête, oui, on ne contrôle pas grand-chose, surtout lorsqu'il s'agit des algorithmes. Il existe bien des coupes-circuits, mais le principal problème, c'est que ces logiciels de la finance ne sont pas certifiés, contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans l'industrie aéronautique. Rappelle le mathématicien Frédéric Abergel, il dirige la chaire de finance quantitative à l'École centrale de Paris.
L'industrie aéronautique, en fait, a le droit d'exercer parce que les logiciels qui sont embarqués sont vérifiés et qu'on est sûr qu'ils font exactement ce qu'ils doivent faire. Ce n'est absolument pas le cas dans le cadre du trading haute fréquence. Et donc, il y a des risques d'algorithmes qui s'emballent, d'algorithmes qui font des erreurs, qui ont des bugs insoupçonnables. Et c'est une des choses prioritaires d'introduire des normes. Il faut qu'ils passent certains tests, quoi.
Ils existent, ces tests?
Il y a plein de tests qui existent. Simplement, on ne les fait pas passer parce qu'il y a une opposition forte de la part des acteurs de marché pour ne pas communiquer leurs algorithmes.
Et ce manque de transparence fait qu'il arrive effectivement des bugs. C'est ce qui s'est passé pour la société Knight Capital. Un algorithme fou a poussé ce courtier de Wall Street à la faillite en moins de 10 minutes après lui avoir fait perdre plus de 400 millions de dollars.
Ah oui, ça c'est quand même très très bête.
J'accepte la recherche du profit comme but suprême de l'humanité. Une guerre économique sévissant sur la planète, même si je sens qu'elle nous mène vers une catastrophe sans précédent.
On va voir maintenant avec vous, Delphine Simon, que pour aller toujours plus vite, les traders se sont lancés dans des investissements très coûteux.
Oui, pour grignoter ces microsecondes, ils ont eu l'idée de s'installer à quelques centimètres du cœur électronique des grandes bourses. C'est un nouveau phénomène qu'on appelle la colocation. Joe Saluzzi est trader à New York. Il a vu arriver ses tout nouveaux colocataires juste à côté des data centers du New York Stock Exchange dans le New Jersey, là où s'est déplacé le cœur de Wall Street.
Le New York Stock Exchange a décidé de louer des emplacements tout autour de son ordinateur principal aux différents fonds, des fonds spéculatifs, des agents de change, etc. Parce que plus vous êtes proche des serveurs, plus vous obtenez les informations rapidement, et ça peut sembler dingue, mais du coup, on sauve des millisecondes, et si on voit l'information plus vite, eh bien on peut développer des stratégies qui vont générer plus de profits.
Delphine Simon, est-ce qu'on a observé le même phénomène autour de Paris ?
Oui, mais en réalité, pas autour de Paris, c'est autour de Londres et plus précisément dans sa banlieue à Basildon. Car il faut savoir que depuis 2010, c'est au Royaume-Uni que sont installés les serveurs informatiques d'Euronext, la bourse de Paris.
On a donc appris que la bourse de Paris était à Londres. Alors il n'y a pas que la colocation. Pour remporter cette course folle à la vitesse, les traders ont encore trouvé une autre solution.
Oui, raccourcir les tuyaux, ces câbles qui transmettent les données entre les différentes places financières. Tout est bon pour gagner du temps, nous explique le journaliste François Pilet.
Les traders haute fréquence dépensent des centaines de millions de dollars pour construire des lignes à fibre optique à très très haute vitesse. Par exemple, sous l'Atlantique, ils ont posé des nouveaux câbles alors que le trafic de données est très bien couvert entre les États-Unis et l'Europe. Internet, etc., consomme pas du tout toute la bande passante nécessaire. Il y a des très gros tuyaux déjà. Seulement, ces tuyaux, ils ont été posés il y a quelques années et puis ils vont pas vraiment tout droit. Donc ils font un peu des détours parce qu'ils sont passés par certains endroits où c'était plus facile pour les bateaux de poser les câbles. Mais eux se sont dit non, il faut qu'on ait notre câble à nous qui aille sur le chemin le plus direct parce qu'en fait, ça nous fait déjà gagner tant de millisecondes.
Et précisément, ce nouveau câble appelé Hibernia Express fait gagner 6 millisecondes.
Et des millisecondes qui valent de l'or. Alors rien décidément n'arrête les traders car en plus de raccourcir les câbles sous-marins, ils agissent aussi dans les airs.
Oui, plus fort que le câble en fibre optique, il y a la transmission par les ondes. Les établissements financiers se tournent vers cette technologie plus ancienne, mais finalement plus performante, notamment aux yeux de Stephen Teach, dont la société Mackay Brothers est spécialisée dans la transmission des données.
La lumière se propage plus vite dans l'air que dans le verre. Elle se propage à 200 000 km/s dans le verre environ, et à 300 000 dans l'air. Donc ça va juste plus vite. Et également, c'est beaucoup plus droit. Parce que quand on fait une fibre, c'est impossible d'être parfaitement droit. On est obligé de faire les trottoirs, on est obligé de tourner au coin, on ne peut pas aller à travers les maisons. Enfin, on est obligé de faire des détours.
Et pour éviter ces détours, pour transmettre les informations par les ondes, faut-il encore, Delphine, d'abord remporter une drôle de guerre ?
Oui, c'est la guerre des pylônes. En Europe, c'est à qui arrivera à avoir son pylône et donc son émetteur le plus près de la ligne droite entre Francfort et Londres. Mais comme la Terre est ronde, il faut être le plus haut possible, placer son émetteur micro-ondes à plus de 300 mètres de hauteur, aussi haut que la Tour Eiffel, nous détaille Alexandre Lomonier, expert en géographie des marchés.
Ces pylônes peuvent être rares, il y a une rivalité ne serait-ce que technique, parce que parfois les espaces disponibles sur les pylônes ne sont pas extensibles, donc on peut avoir un peu de concurrence là-dessus, il y a aussi des problèmes de fréquence. Si une société de Chicago, qui est considérée comme entre guillemets un trader à haute fréquence, a acheté un pylône en Belgique pour 5 millions d'euros, un pylône qui se situe près de la côte belge, pour pouvoir traverser la Manche et aller en Angleterre. Si cette société investit autant d'argent pour gagner quelques microsecondes ou quelques dizaines de microsecondes, c'est qu'il y a un intérêt à le faire.
un intérêt très certainement, mais cette course perpétuelle à la vitesse, est-ce qu'elle est totalement légale?
Parfois, ces traders, ils sont sur la ligne jaune. À force de vouloir être plus rapide que les autres, ils développent des pratiques pas très équitables. Comme le raconte le co-auteur de Crash Machine, François Pillet, certains utilisent leur avantage technologique pour passer devant les autres.
C'est un coupe-fil, en fait. C'est comme au cinéma. Hein. Si vous pouviez, vous voyez, tout d'un coup, il y a 30 personnes, puis qu'il reste plus que 10 places. Bah vous, vous avez un outil pour faire tchic. Vous vous mettez tout devant, vous achetez le ticket de cinéma, puis une fois que la salle est quasi pleine, vous dites « Ah, bah voilà, je vous vends mon ticket pour 2 euros de plus. » Et ça, c'est de la tricherie, hein, au niveau boursier. Quelques grandes entreprises ont été condamnées pour ça.
Quelques entreprises, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de condamnations?
Oui, quelques-unes, mais surtout aux États-Unis. En France, à ce jour, la seule sanction importante pour manipulation de cours a été prononcée contre la société Virtue, une amende de 5 millions d'euros au bout de 6 ans d'enquête.
Une grosse amende, mais elle est unique. Ça reste compliqué de sanctionner les mauvaises pratiques du trading haute fréquence. Est-ce qu'on sait quelles sont les sociétés qui recourent à ce type de trading?
Il y a des sociétés qui ne font que ça. Et puis, il y a celles qui ont une activité partagée entre le trading traditionnel et le trading à haute fréquence.
Et parmi celles-là, on imagine qu'il y a de grandes banques d'investissement.
Oui, sauf qu'elles ont beaucoup de mal à le reconnaître. J'en ai appelé plusieurs. Écoutez, par exemple, ce que l'on me répond au service de presse de BNP Paribas lorsque je sollicite l'interview d'un responsable sur ce sujet.
Hello ? Je pense pas qu'on répondra, parce que c'est pas un sujet sur lequel on souhaite s'exprimer ou être associé. C'est que comme les grandes banques en général sont associées avec ce type de trading et que nous on n'en fait pas.
C'est juste, j'aimerais savoir en fait, vous me dites on n'en fait pas, mais ça me semble tellement étonnant, vous êtes la plus grosse banque sur les dérivés, donc je comprends pas que vous n'en fassiez pas du tout.
Ouais. C'est un type de trading, donc j'ai pas dit qu'on faisait pas de trading et j'ai pas dit qu'on n'utilisait pas de plateforme électronique. J'ai juste dit que le trading haute fréquence, ce n'est pas régulé, c'est ultra rapide, c'est vraiment que processé par des machines. Nous, on fait pas ça. Nous, on a vraiment des hommes derrière, on respecte toutes les consignes de sécurité. Enfin, notre activité, elle est dans la règle de l'art.
Dont acte, ils n'en font pas. Est-ce que c'est totalement crédible?
En réalité, les banques jouent sur les mots. C'est du moins le sentiment de Frédéric Abergel. Il a longtemps travaillé en salle des marchés pour Natixis et Barclays. Selon lui, les banques nient cette activité car le trading à haute fréquence a très mauvaise presse.
Cette terminologie inspire un peu la crainte et donc les gens disent qu'ils ne font pas trading haute fréquence. C'est faux par définition dans la mesure où les activités de trading maintenant sont toutes en haute fréquence. Donc lorsqu'un acteur de marché comme une banque veut intervenir, être présente sur un marché financier, elle doit faire du market making, c'est-à-dire assurer sa présence au carnet d'ordre, aux meilleures limites. Pour faire ça, il faut traiter en haute fréquence.
Bon, on a compris, peu ou prou, tout le monde en fait. Et finalement, ça n'a rien de très surprenant. Comment imaginer en effet qu'une institution financière ne s'adapte pas à une telle innovation technologique?
Sauf que ça dépasse l'innovation technique. Derrière cette accélération du temps dans le monde de la finance, il y a aussi des choix très politiques, rappelle Benoît Lallemand de l'ONG Finance Watch.
Le trading haute fréquence est né de la volonté du politique de déréglementer les marchés boursiers en Europe. Et là, se sont engouffrés des acteurs qui sont les traders haute fréquence, qui ont simplement pris avantage de la fragmentation des places boursières. Donc au lieu d'avoir une place boursière dans chaque pays, on a commencé à en avoir plusieurs, parfois des dizaines. On n'est pas loin de 200 au niveau européen. On devait être à une quarantaine maximum il y a 10-15 ans.
Alors est-ce que cette dérégulation, elle n'est pas quand même en train de connaître ses limites?
Oui, bien l'Europe, comme les États-Unis, essaie dorénavant d'encadrer un peu plus ses pratiques. Et l'AMF, de son côté, investit 20 millions d'euros pour mettre à jour ses outils informatiques, alors qu'ils avaient été renouvelés il y a à peine 6 ans, mais ils sont déjà dépassés.
Difficile hein, donc de freiner cette course à la vitesse, d'autant plus que les traders à haute fréquence soutiennent pour leur part qu'ils sont très utiles au marché.
En effet, c'est le grand argument des traders haute fréquence, ils apportent de la liquidité au marché. En clair, grâce à eux, toute action trouve aussitôt un acheteur ou un vendeur. Ça met de l'huile dans les rouages. On dit que ça fluidifie les marchés, comme le soutient l'entrepreneur Stéphane Titch.
Cette activité-là, en fait, elle apporte quelque chose. Mais pas du tout parce qu'elle a envie d'apporter. Les traders haute fréquence, c'est pas des philanthropes. C'est juste parce que le fonctionnement économique de ce petit agent économique est utile pour fluidifier les échanges.
Il y aurait donc une sorte d'effet mécanique, mais Delphine peut être aussi au détriment des petits porteurs.
C'est bien la crainte du directeur des marchés à l'AMF, Philippe Guillot, peut-être le meilleur connaisseur du secteur. Le problème, c'est que ça éloigne les petits porteurs. Vu le ticket d'entrée, seules les grandes institutions pourront réellement accéder aux grandes places boursières. En plus, avec cette accélération extraordinaire du temps, on est à des années-lumière de l'économie réelle. Or, à la base, la bourse, ça sert aux entreprises pour trouver des financements, rappelle l'ancien banquier d'affaires Jean-Michel Nolot, spécialiste de la régulation.
Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, l'utilité sociale, économique de cette pratique est proche de zéro. Parce que on voit bien l'avantage pour les opérateurs qui sont derrière leurs robots, mais sinon pour le marché. Le trading à haute fréquence fait partie de cette hypertrophie de la finance, c'est-à-dire de ce déséquilibre entre la sphère financière et l'économie réelle.
Enfin, en conclusion, Delphine Simon, il demeure un dernier risque et pas des moindres.
Et oui, ce risque, c'est que les algorithmes pourraient provoquer un très très gros bug. C'est ce que redoute le journaliste François Pillet.
Tout d'un coup, il peut y avoir des mouvements sur le marché un peu mystérieux, où tout d'un coup, un algorithme commence de déranger un autre, parce qu'il peut y avoir des... C'est un peu comme les ondes, des perturbations. Lui, il veut faire ça, puis alors il fait ça, il fait sa stratégie, puis il se confronte à un autre logiciel qui veut faire autre chose, et ça crée des boucles comme ça, et il se déclenche. Et le problème, quand on a 50% ou plus des transactions qui sont effectuées chaque minute, chaque seconde par des algorithmes, et que les algorithmes se déclenchent tous les uns après les autres, c'est un trou d'air. Tout d'un coup, il n'y a plus personne sur le marché. Et les cours s'effondrent en quelques minutes. C'est ce qui s'est passé en 2010, ça s'est répété à quelques reprises. C'est un avion, tout d'un coup, qui tombe, parce qu'il n'y a plus d'air. Il tombe.
Pour éviter un méga trou d'air, on a mis en place des coupes-circuits pour arrêter tous les robots au même moment. Une sécurité, mais fonctionnera-t-elle en cas de forte crise ?
Merci beaucoup Delphine Simon pour cette enquête qui est à retrouver sur notre site franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info. Dans un instant, musique, diplomatie parallèle et politique.